analyse, opinion et entrevue. Sur rbds.ca, bienvenue à l'émission Les Gérants d'Estrade. Et maintenant, voici celui qui n'a pas peur de ses opinions, votre animateur, Simon Smerica.
Bienvenue, mesdames et messieurs, une autre émission des Gérants d'Estrade. Une émission fort chargeuse cette semaine, encore une fois, où on va jaser, entre autres, de Arturo Gatti, du retour de Vladimir Malahov, des problèmes de Alex Rodriguez et beaucoup plus. Mais juste avant de commencer avec le sujet principal, accueillons notre invité d'aujourd'hui.
And now, here's Maxime Chevalier.
Comment ça va, Maxime?
Ça va très bien, toi, Simon?
Ah, une excellente forme, une fois de plus. Si tu me le permets, cette semaine, j'aimerais t'amener au cirque.
Ah, je te le permets, Simon. Ça fait longtemps que j'ai pas été faire un tour au cirque.
Allons-y. Bienvenue au cirque des Islanders de New York. Et les choses les plus incroyables et les choses les plus bizarres jamais vues. Oui, vous êtes les bienvenus au monde imaginaire de Long Island, avec en grande vedette le maître de piste Charles Wang, le funambuliste sans filet protecteur Neil Smith, le clown Ricoco dit Mike Milbury, le dompteur de lion Ted Nolan, le trapéziste qui a dû faire des pirouettes incroyables pour impressionner le maître de piste pour faire partie de ce cirque, Kurt Snow, et le magicien qui s'est fait disparaître, Pat Lafontaine. Oui, Maxime, je t'emmène au cirque cette semaine. La semaine passée, on a pu entendre justement le fait que Charles Wang, le propriétaire des Islanders de New York, a congédié Neil Smith après seulement 40 jours de service et l'a remplacé par le gardien substitut l'année dernière qui a joué seulement 22 matchs, Gard Snow.
Ben oui, Simon, les Islanders qui n'ont pas fini de nous surprendre, évidemment. Écoute, 40 jours de service pour Neil Smith. Neil Smith, on le connaît, a gagné la Coupe Stanley avec les Rangers. Bon, avait comme vraiment bâti une équipe gagnante là, au dernier coup de patin de Marc Messier.
Oui.
C'est un peu désolant là, ce qui se passe à Long Island, effectivement, n'est-ce pas, Simon?
Ben, c'est plutôt étrange tout ce qui se passe depuis probablement les 10 dernières années à Long Island. Depuis que Mike Milbury est en service, c'est vraiment...
Là, lui, c'est un clown. C'est ça qu'on a appelé notre émission le cirque de Long Island aujourd'hui, franchement. Oui. Remplacer un gars qui compte 20 années de service dans la Ligue nationale, puis comme je disais tantôt, a fait gagner la Coupe aux Rangers là, en 94, je comprends pas. Je comprends vraiment pas.
Mais pourquoi l'avoir engagé à ce moment-là? C'était l'homme de Charles Wang. Supposément, c'était lui qui prenait les décisions. Et puis, le plus étrange, c'est pas nécessairement de l'avoir congédié, ça. Bon, on aurait pu vivre avec cette décision-là qui est vraiment stupide de toute manière.
Laisse-y le temps de faire ses preuves.
Oui, mais pourquoi le remplacer par Gard Snow?
Ouais, Gard Snow, lui, il goulait encore l'année passée, Simon.
22 matchs, puis quand le propriétaire a justifié l'embauche de Gard Snow, il s'est dit énormément impressionné par la passion de Gard Snow et ses connaissances.
Oui, en tout cas, ça se reflétait pas vraiment sa glace, à mon avis. Gard Snow a tout le temps été un gardien moyen.
Ce qui se passe à Long Island, c'est... Bon, ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans nos émissions. Pourquoi Mike Milbury est toujours en service? On l'a retiré, je veux dire, entre guillemets, de la plateforme hockey à Long Island. On l'a mis, directeur...
des opérations sportives.
Oui, parce que M. Charles Wang a d'autres projets sportifs. Et c'est Mike Milbury qui s'en occupe.
Ben, tu penses pas que c'est ça un peu le problème? Il est peut-être trop éparpillé. Il devrait se concentrer vraiment sur son club de hockey.
Ben, c'est que...
Il est mal entouré, en tout cas.
Qui?
Ben, M. Charles Wang.
Ben, c'est justement, c'est M. Mike Milbury qui conseille Charles Wang.
Faut être sous, hein.
On a ramené M. Ted Nolan, un entraîneur que personne ne voulait au courant des 10 dernières années. Je dirais même quasiment 12.
Ah, c'est pas vrai, ça. Les Wildcats, ils l'aimaient bien.
Il aurait peut-être pu rester dans les juniors. Pourquoi personne n'en voulait? Il y a sûrement une raison. Qui l'a ramené maintenant? Est-ce que c'est Charles Wang? Est-ce que c'est Mike Milbury? Ou c'est vraiment la décision de Neil Smith?
Bonne question, Simon.
Bon, lui, il a été épargné suite au congédiement de Neil Smith. Est-ce que à ce moment-là, c'était vraiment l'homme de Neil Smith? Ce qu'on reproche à Neil Smith, entre autres, c'est le fait qu'il était individualiste.
Neil Smith.
Ben, Neil Smith, il fait partie de l'ancienne garde, si tu veux, ou est-ce que c'était un homme qui dirigeait toutes les opérations?
Puis ils ont pu déterminer ça en 40 jours, eux autres.
Ouais. Moi, pas seulement que c'est comme, ça leur a pris 40 jours pour déterminer ça, mais il n'y aurait pas pu, justement, dans les entrevues pour l'embauche, savoir c'est quoi sa philosophie. Là, soudainement, après 40 jours, il ne fit plus dans le décor.
Ben, tu vois qu'il y a un manque de sérieux vraiment à New York.
Ben, oui. Puis, ça part de où? C'est-tu Charles Wang? C'est-tu Mike Milbury?
Mais Charles Wang, lui, en fait, là, c'est un monsieur, c'est le propriétaire de l'équipe, ça?
Oui.
Bon, ça, c'est un gars qui a plein de cash, qui a décidé d'investir dans le sport, se divertir probablement. Écoute, lui, il faut pas vraiment y en vouloir. Je pense que le bas, là, commence à blesser, là, au niveau de Mike Milbury.
Bon,
de toute façon, toi, tu l'aimes pas vraiment.
Ben, on fera pas son pedigree. On connaît tous les mauvais échanges qu'il a fait.
Il a déjà frappé dessus auparavant. Hein?
Ouais, assez souvent. Puis je pense que là, présentement, je pense que le bouffon, c'est M. Wang. Hey, allez dire, là, on remplace M. Neil Smith, qui a quand même gagné une coupe Stanley, on s'entend bien.
Il mérite le respect, quand même.
Bon, un minimum, là.
Un minimum.
Allez dire, j'engage Gard Snow, puis on a discuté ce printemps, puis j'ai été impressionné par ses connaissances et sa passion.
Là, toi, t'imagines-tu le tableau, là, Gard Snow qui appelle n'importe quel directeur général en Ligue nationale?
Lou Lamoriello.
Oui, il appelle au New Jersey, pas trop loin, là, l'autre bord de la rivière, il dit « Ouais, Lou, j'aimerais ça transiger avec toi, puis tu penses-tu vraiment, Simon, que Lamoriello va prendre les propos de Snow au sérieux, là? »
Ben, moi, ce que je pense, c'est que on a beau dire, entre guillemets, qu'on a retiré Mike Milbury, mais s'il y aurait celui qui tire les ficelles puis qui a trouvé sa catin, ça va être Gard Snow. Gard Snow, ça va être le yes man. Il se fera pas un nom, puis il sera pas un directeur général par lui-même, tant que l'équipe aura pas eu un certain succès.
Ouais, mais là, certain succès, premièrement, ça commence avec un peu de crédibilité, là, au niveau de la, dans le haut de la pyramide, si on veut, puis là, ben, Neil Smith amenait un peu de cette crédibilité-là, en fait. Là, Gard Snow. Comme je te dis, la pomme pourrite, c'est Milbury.
C'est comme si du jour au lendemain...
Ça coûte
au moins. Je veux dire, c'est un bon joueur. Faudrait trouver, je sais pas...
Un joueur moyen.
Ouais.
Lyle O'Delaine.
Ou encore Mike Ribeiro, qui est nommé du jour au lendemain directeur général du Canadien.
C'est un peu farfelu.
Beaucoup.
Mais le Canadien et les Islanders, ça n'a pas vraiment le même prestige.
Ben, il y a quand même eu une certaine dynastie. Là.
Hey, ça, tu me fais penser à ça. Là. Denis Potvin, Brian Trottier, Mike Bossy, qui le gardien aussi, Smith.
Billy Smith.
Hey, ces gars-là, doivent-tu manger le boss, Simon?
Ben, justement, on avait ramené Pat Lafontaine comme conseiller du président.
Déjà là, ça, c'était un bon move.
Bon.
Mais là, lui, quand il a vu le ridicule de la situation, il s'est dit, hey, moi, là, gars, je pèse le piton, eject.
Il a été suffisamment gentleman pour pouvoir reconnaître que c'était pas sa place, puis au lieu de rester dans un cirque, il s'est fait disparaître, il veut garder sa crédibilité à quelque part.
Parce qu'à la limite, lui, s'il veut se retrouver de la job, je pense pas qu'il y ait de la difficulté, là. Lafontaine, on connaît sa réputation, puis c'est un joueur, un joueur exceptionnel, puis, quand même.
Je pense que c'est là le problème, là, c'est la crédibilité. La crédibilité de Long Island. Justement, comme tu as dit, là, Brian Trottier, Michael Bossy, Nine Strum.
Ça, c'est des vrais, là.
Oui. Hey, ça a gagné 4 coupes Stanley, ça. Ça, là, ça doit manger ses bas. Non, mais je veux dire, t'as justement Denis Potvin, là, qui est présentement descripteur au match des Panthers. Penses-tu qu'il serait pas venu à genoux, justement, prendre ce poste-là?
Ben, peut-être pas.
Ça aurait eu plus de crédibilité de mettre Denis Potvin là que Gard Snow.
Ah, mais ils ont peut-être posé la question. Lui, il aime peut-être ça, jouer son 9 trous en Floride le matin. Là.
Prends qui tu voudras. Prends Brian Trottier. Ça aurait pas été mieux prendre Brian Trottier. Tu veux prendre quelqu'un de l'organisation. Prends quelqu'un qui a, justement, une renommée. Quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui voit une crédibilité.
Quelqu'un qui a un passé victorieux avec l'équipe, là, dans le fond. Parce que Gard Snow, c'était M. Valise, ça, à une époque, bon. Là. Il y a comme un léger conflit d'intérêts, là. Le gars, il se pense encore joueur, mais là, il chausse les souliers d'un DG. C'est comme nébuleux, là.
Lui, il est mort de rire, là, Gard Snow.
Oui, je comprends, mais c'est là où je comprends pas. Tu parlais tantôt de Brian Trotti, exemple, ou bon, Michael Bossy, peu importe là, les joueurs qui ont fait partie de l'histoire des Islanders dans le temps que ça allait bien, là, juste avant que les Oilers émergent, bon. Ces gars-là, ils ont un certain âge, en fait, là, 40 ans et plus, l'expérience dans le milieu, puis là, pas quoi dire de plus. Guard Snow. Gardien substitut partout où est-ce qu'il a passé.
Je pense que c'est ça qui a été le plus insultant. Hey, toi, t'es un partisan, là, des Islanders, là, t'as des billets de saison, tu fais quoi?
Ben, là, premièrement, je me croise les doigts, là, pour que quelqu'un essaie de redresser la situation, mais là, je me rends vraiment compte en me pinçant que je rêve pas, puis c'est vraiment Guard Snow, le DG. Ils vont le voir après 20 parties. Là. Avant le match des étoiles, là, on va savoir vraiment qu'est-ce qui se passe là-bas.
Pat Lafontaine, conseiller privilégié du propriétaire, ça, a été engagé.
Bon, ça, c'était pas pire.
Mais pour qu'on congédie Neil Smith, là, on remplace par Guard Snow.
Là, il y a un os.
Puis que Pat Lafontaine démissionne. C'est ben, parce Pat qu'à Lafontaine quelque part, c'est-tu qu'on l'a nommé, mais en réalité, on voulait juste qu'il soit un ambassadeur à Long Island?
Ben, s'il a démissionné, c'est peut-être à cause, justement, bon, il a peut-être pas assez de responsabilités, ou quand il a vu, bon...
Qu'on l'écoutait pas.
Qu'on l'écoutait pas, lui, c'est du cassé, je fais ici.
Tu n'aurais fait probablement autant.
Ouais.
Hey, tu restes là. Toi, t'es conseiller, dans le fond, propriétaire.
Tu te trouves endossé ces décisions-là, en fait.
T'en plein ça, tu perds ta crédibilité.
Ben, là, Lafontaine, moi, je salue son geste. Je sais pas quoi dire de plus. Le gars, il a vu que le tapis glissait en dessous des pieds de l'organisation. Il s'est dit, moi, je resterai pas là. Le bateau coule. Moi, je vais prendre la bouée de sauvetage. Je vais m'en aller.
Pour continuer, si on va sur le site des Islanders de New York, au newyorkislanders.com, en partant, vous allez tomber sur une lettre ouverte de Guard Snow qui écrit aux fans. Et puis, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il ose écrire.
Ben oui, Simon, Guard Snow, bon, qui s'adresse aux partisans des Islanders à travers le site internet des Islanders, justement, bon, dans sa lettre, il dit que leur but premier, c'est d'aller chercher la Coupe Stanley. C'est clair que...
À quoi bon de pouvoir compétitionner?
Il comprend que ce sera peut-être pas rose-rose. Il demande le support moral des supporters, en fait, des fans, des partisans.
Puis moi, ce que j'aime beaucoup à la fin de la lettre, c'est qu'il dit qu'il y a suffisamment de vécu pour pouvoir remplir le rôle pour ce job-là.
Ben là, c'est un peu farfelu. Là. Le gars, il se pète les bretelles, puis il n'a pas encore... il n'a rien prouvé, absolument rien prouvé. Il a rien prouvé comme joueur, puis là, il s'imagine que dans le rôle de directeur général, là, il va mener son club là, à la Coupe Stanley.
Même le site internet des Islanders, c'est une comédie. Si vous allez dans le menu des joueurs, puis vous essayez d'aller chercher l'alignement, vous allez pouvoir voir l'alignement des Islanders, où est-ce que vous voyez des bobbleheads.
Ah oui, version bobblehead.
Des petits corps avec des têtes disproportionnées. Je veux dire, moi, je vois ça, puis je trouve que ça manque de sérieux pour une équipe qui se dit prestigieuse.
Mais c'est du beau travail artistique, quand même.
Ah oui, c'est sûr. C'est tout le même joueur qui sont tous cantés de la même manière avec une tête disproportionnée. Bon.
On dirait du hockey sur table quand on était jeune. La remarque que ça va super bien, Alexey Yashin, la grosse tête. Ah, c'est bien.
Maintenant, si on regarde les joueurs qui ont été acquis durant le règne Neil Smith qui a duré 40 jours, il y a le défenseur Brandon Witt.
Pas mauvais.
Chris Simon.
Ça ajoute du poids à ta formation.
Ouais.
Un peu de crédibilité sur la glace.
Mike Sillinger.
Pas mauvais non plus.
Tom Pody.
Bravo, Neil.
Maintenant, toi, tu... Aussi de tes voix cette année, avec un alignement qui comprend comme gardien de but quand même Éric DiPietro.
Lui, il est pas mauvais, là. C'est juste qu'il est victime du club, en fait. Là. Il a pas vraiment la formation pour garder dans le match, fait que dans le fond.
Tes trois premiers défenseurs qui s'appellent Alexis Zetnik, Brandon Witt puis Tom Pody.
OK pour Brandon Witt. Les deux autres, je connais pas assez vraiment.
Alexis Zetnik.
Zetnik, ben, il est pas... Non, il est bon.
Oui, c'est ça. Là, où est-ce que ça se gâche, c'est les numéros 4 à 7. Radek Martinek, Denis Grembeshkov, Chris Campoli, puis Joël Bouchard.
Ben là, on peut pas être méchant que Joël Bouchard.
Maintenant, t'as une attaque fabuleuse.
Campoli, il est pas mauvais, par exemple.
Ouais. T'as une attaque fabuleuse avec probablement ton joueur le plus talentueux qui est Miroslav Satan.
Ouais, l'ancien joueur des Sabres.
Mais qui est quand même alimenté par le non moindre Alexey Yashin.
Monsieur Bubblehead, par excellence.
Aaron Ashen.
Oh, ça c'est un joueur de quatrième trio à Montréal.
Sean Bates, Jason Blake, Trent Hunter, Robert Nielsen, Mike York, Jeff Tambedini, Chris Simon.
Ouais.
Ouais. Je veux dire, mon Snow va avoir bien d'ouvrage.
Ouais. Mais comme il dit, il y a assez de véhicules pour tout gérer ça de façon exceptionnelle.
Alors, je vous invite tous aller voir le cirque des Islanders. C'est une vraie comédie. Vous allez vraiment avoir la rate dilatée. On va passer maintenant au segment Shot Clock.
Simon Smirka and his guests are ready. Are you? Because it's time to beat the clock.
Allons-y, Simon, beat that clock.
Arturo Gatti devrait-il prendre sa retraite?
Arturo Gatti, qui a maintenant 34 ans, qui a perdu ses deux derniers combats, trouve le temps long. A-t-il perdu le goût de se battre? A-t-il perdu sa fougue? Ou c'est le poids des années qui se fait sentir? Après nous avoir fait vivre des sensations fortes pendant les 10 dernières années au cours d'un mémorable combat de guerrier, Gatti semble essoufflé. Il avait essuyé toute une défaite, non plutôt, s'est fait servir une leçon de boxe contre Mayweather, beaucoup plus rapide. La semaine passée, c'est Baldomir qui lui a fait subir la défaite. Reculant devant rien ni personne, il nous avait habitués à des batailles sanglantes, mais Buddy McGirt, son entraîneur, a réussi à modifier le style de Gatti avec une défensive un peu plus solide et une technique un peu moins moyenâgeuse, disons. Avec une bonne réputation et plusieurs bonnes bourses acquises, le boxeur d'origine montréalaise devrait accrocher ses gants et prendre un rendez-vous pour un scan cérébral avant de se faire mal. Merci beaucoup, Arturo, qui nous a fait vivre de beaux moments.
Gatti devrait se retirer. Oui, avant qu'il soit trop tard, Arturo nous a laissé des souvenirs, des spectacles incroyables, tels que ses trois combats contre Mickey Ward et Gianluca Branco. Il s'est créé une image de guerrier parfait et de entertainer par excellence. Mais maintenant, à 34 ans, après deux cuisantes défaites contre Mayweather et Baldomir, et dont, dans les deux cas, il n'était plus dans le coup, se doit de se retirer pour qu'on garde un souvenir impérissable de lui et le coffre bien rempli. Et non faire comme Roy Jones qui tire sa carrière alors qu'il est fini et qu'il croit qu'il est toujours le meilleur. Merci, Arturo.
Floyd Landis enlève-t-il la crédibilité au monde du cyclisme?
Alors qu'on pensait que le ménage avait été fait dans le monde du cyclisme avec les multitudes scandales de dopage, on disait qu'on avait assisté au meilleur Tour de France de tous les temps. La crédibilité du Tour de France est en danger maintenant. D'accord, ce n'est que le premier test. D'accord, il se peut qu'il ait un niveau de testostérone plus élevé que la moyenne. Mais le timing était mauvais et il a échoué le test à l'étape où il venait de reprendre plus de 8 minutes sur le meneur. J'ai surtout une pensée pour la famille de Landis qui se retrouve bien malgré eux dans cette triste histoire alors qu'il croyait avoir foi en Floyd.
À vrai dire, la vraie question est, est-ce que le monde du cyclisme a-t-il encore la crédibilité? Puis d'aller 3 semaines en moyenne à 55 km/h dans les Alpes ne ressemble vraiment pas à une commission chez Rona, Simon. Pour réussir ce Tour de France, plutôt ce Tour de force, en étant compétitif et en ne prenant pas de suppléments dit interdits, est illusoire. Écoute, ces gars-là sont des machines qui carburent au suprême, et Landis en est l'exemple cette année. Remonter plus ou moins 8 minutes dans la 17e étape pour l'emporter finalement 2 jours plus tard, ne vous met pas la puce à l'oreille. Retrancher 8 minutes au meneur en une étape, sans vitamine spéciale dans son Gatorade, ben oui, Floyd. Ça aurait dû être un petit peu plus subtil. À mon humble avis, les meilleurs ne sont pas vraiment les meilleurs, ils sont simplement plus wise en réussissant à tromper les pipi-tests.
Que penser du retour de Vladimir Malahov?
Lula Moriello est un homme très brillant et a toujours su prendre de bonnes décisions. Malahov, lui, c'est une autre affaire. Avec du talent en format club, s'il vous plaît, celui-ci a toujours laissé son cœur au vestiaire, excusez. Partisan du Canadien, je ne garde pas un très bon souvenir de son passage avec le CH. Je souhaite du succès encore à la Moriello en espérant que Malahov ne le fasse pas passer pour un fou en jouant une partie sur 4.
Pour moi, Malahov est un opportuniste qui a réussi tout au long de sa carrière à se remplir les poches avec le moins d'efforts possible. Malahov qui touchera sa dernière année de contrat lucratif, 3,8 millions de dollars, ce qui met la Moriello dans l'eau chaude. Avec Malahov et Gomez, les Devils sont déjà rendus à 44 millions de dollars, soit le maximum de la masse salariale, alors qu'il doit encore signer Brian Junta, Paul Martin, David Hall et un gardien substitut. Bravo, mon Vlad.
Brière a soutiré 5 millions au Sabre. Est-ce trop?
Sans Daniel Brière, qui a transporté l'équipe sur ses frêles épaules, où en seraient les cendres? Brière ne l'a jamais eu facile, et il y a 4 ans, à l'âge de 25 ans, il était encore dans la Ligue américaine à Springfield. Une production de plus de 1 point par match cette année, soit 58 points en 48 matchs. Mais surtout, quand on regarde le contrat de Martin Havlat qui a réussi à avoir 6 millions des Blackhawks, je pense que c'est pleinement mérité pour Daniel Brière.
Effectivement, Simon, depuis que Brière a convaincu les Sabres qu'il avait sa place dans l'alignement, celui-ci ne les a pas déçus. Jamais vraiment reconnu à sa juste valeur, le capitaine a toujours gardé la bonne attitude. Après avoir touché 1,9 million seulement l'an passé et encore moins les années précédentes, l'arbitre a dû penser au mot « rétroactif ». Malgré le plafond, les DG sont aux prises avec une nouvelle flambée. Dans le cas de Brière, l'arbitre a vu juste. Malgré le montant, les Sabres n'ont pas à s'inquiéter, Brière ne sera pas du genre à s'asseoir sur son chèque. En conclusion, il est l'exemple qu'un petit joueur peut dominer avec du cœur. Ça coûte, prends des notes.
Alex Rodriguez en arrache avec les Yankees et il passe un sale quart d'heure à New York. Devrait-on être patient?
À l'époque au Texas, un vieux fou lui avait consenti un contrat de 10 ans pour la bagatelle de 250 millions. Ouf. Steinbrenner, bigger is better, a flairé l'aubaine et lui a fait une place dans l'alignement. Les partisans des Yankees, habitués au succès, ne la trouvent pas drôle du tout et pour cause. MVP, Most Valuable Player l'an passé et fantôme cette année, A-Rod se cherche. Entendons-nous, là, il n'y a aucun joueur avec 18 erreurs sur le terrain en une saison qui gagne 25 millions par année, à part lui. Au paradoxe, P joueur en défense, c'est le plus gros chèque de paye de l'équipe. Joueur d'exception mérite-t-il de la compréhension? Je ne suis pas New-Yorkais et je ne raffole plus du baseball. De gros contrats comme ça nous ont coûté nos expos. Moi, je n'ai pas de sympathie pour lui ni pour petit Georges.
Maxime, pour répondre à ta question, le vieux fou qui a consenti 252 millions est Tom Hicks, propriétaire des Rangers du Texas, mais aussi propriétaire des Stars de Dallas, le même propriétaire qui a consenti 45 millions sur 5 ans à Bill Guérin. Mais ça, c'est une autre histoire. Rodriguez, qui touche 25 millions par année, est le meilleur joueur du baseball majeur, et peut-être même de tous les temps. Par le fait qu'il touche un contrat complètement démesuré, il se doit d'être performant à tous les jours. Du 7 juillet au 23 juillet, il a une fiche de 9 coups sûrs en 49 présences. Présentement, il en bave à New York, la pire ville pour avoir une léthargie. C'est ce qui met un terme à l'émission de cette semaine. Je vous remercie tous d'avoir écouté l'émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Maxime, je te remercie beaucoup.
Ben, ça m'a fait plaisir, Simon.
Et à la semaine prochaine.
Au revoir.
See you next week for another show with Simon Smirka and his guests.